Et pour ce quartier libre, comme je vous en ai déjà parlé sur cette antenne, j'ai le plaisir de recevoir Denis Carvin. Bonjour.
Bonjour, bonjour Edith Friand.
Alors nous allons partir à votre rencontre. Moi j'ai quelques informations, mais je préfère les avoir de vous-même. Vous êtes historien et vous avez fait aussi de l'archéologie médiévale. Et aujourd'hui, vous êtes votre nouveau job, c'est d'écrire des récits de vie, ce que vous venez de faire, donc avec quelqu'un qu'on connaît bien à Fréquence Mistral, Norbert Jouvaux. Tenez cette ferme auberge Danse l'Ombre, qui a maintenant changé de titre, l'auberge des amoureux, je crois.
Du Vallon des amoureux.
Voilà. Donc on va revenir sur ce qui vous a amené à écrire ces récits de vie, un peu votre parcours à vous, avant d'en venir à cet intérêt.
Alors l'histoire, oui, c'était avant l'âge de 30 ans. Donc j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art. Ça m'a amené à me spécialiser en archéologie médiévale. Et donc à m'intéresser à ce qu'est un artisan au Moyen-Âge, puisque ma spécialité c'était le livre médiéval et la reliure médiévale. Donc pour étudier les artisans, j'ai participé au séminaire de Jean-Pierre Seb sur l'anthropologie. Et ensuite l'anthropologie ne m'a plus quitté. Et puis l'archéologie médiévale m'a amené en Italie. J'ai travaillé en Italie 2 ans pour le ministère des biens culturels. Et à mon retour, petit à petit, je suis allé vers l'humain anthropologique, mais plus individuel, à la psychanalyse. Et ce lien entre l'anthropologie, la psychanalyse, la sociologie, c'est le récit de vie. Et c'est mon métier depuis plusieurs années maintenant.
Donc vous n'êtes pas du département au départ, vous venez d'où ?
Alors je viens des alentours de Marseille, de Trets, c'est un petit village dans la vallée de l'Arc. Et je suis ici dans les Alpes-de-Haute-Provence depuis 2 ans et demi, où j'ai acheté une maison pour m'installer dans la vallée du Jabron en fait. Voilà, et au départ c'est... pour aller à la rencontre des personnes dans la vallée, je me suis dit comment faire. Et je me suis dit, le mieux, c'est de leur proposer, de les interviewer, en leur posant 4 questions. En fait, comment vous êtes arrivé dans la vallée? Qu'est-ce que vous y faites? Est-ce qu'il y a quelque chose de très beau dont vous voudriez parler? Et puis, comment vous voyez l'avenir? Ça a donné les récits du Jabron, qui sont en ligne sur le site resurgent.org, que tout le monde peut écouter. Et qui est encore en train de grandir, que j'ai élargi maintenant, en fait, à l'Ure Ventoux. Parce que, en fait, ça suit mon cheminement et ce que je deviens, moi, dans le 04.
Donc, vous avez commencé par enregistrer, avant d'écrire ce livre,
voilà.
Dans ce l'ombre. Le livre est en vente.
Oui.
Et le récit est gratuit sur...
Alors, c'est pas les mêmes récits.
C'est pas les mêmes récits.
Non, non, non. Alors, Norbert Jouvaux a son récit oral enregistré avec les autres. Mm-hmm. Mais c'est des récits très courts qui durent entre 10 et 10 minutes et 45 minutes. Quand c'est des vieux paysans de la vallée, là, on n'a pas mis de limite. J'ai pas mis de limite. C'était tellement difficile déjà d'avoir accès à eux et qu'ils acceptent d'être enregistrés que je leur ai pas posé ces 4 questions que je vous disais. Donc il y a un peu des longs formats, des moyens formats et des petits formats. Parmi ceux qui étaient dans les récits, j'ai eu envie de créer, d'écrire le livre qui puisse aller au-delà à une collection. Et là, j'ai sélectionné les néo-ruraux. Parce que ce qui m'intéressait et qui fait roman, c'est comment quelqu'un qui arrive de l'extérieur s'intègre, avec plus ou moins de difficultés, à la vie en ruralité. Et donc j'ai commencé par Norbert, parce que je me suis rendu compte que Norbert Jouvaux, dans la vallée, il avait eu des difficultés d'intégration, il avait un peu des tensions, etc. Donc je me suis dit, en racontant sa vie, un petit peu de bouc émissaire de la vallée, on va avoir 2 choses. On va avoir ses difficultés, son histoire à lui, un Marseillais qui vient dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et puis on va avoir en creux comment la vallée a réagi, comment les gens dans la vallée ont réagi et pourquoi, et l'interaction entre les deux. Voilà. Et ça a donné un véritable roman, en fait. Ça dépasse le récit. Un récit de vie simple.
Donc, ce qui vous a donné envie d'aller vers lui, c'était de savoir comment il avait fait pour s'intégrer dans le paysage rural.
En particulier aussi parce qu'il est arrivé dans la vallée. Il a tenu d'abord le bistrot de Noyer, puis la ferme auberge, dans ce l'ombre maintenant du Vallon des Amoureux. Et il a connu le passage, il est arrivé en 94, donc il a connu le passage du monde paysan à Internet. Donc dans le livre, on voit l'arrivée d'Internet, par qui, comment. Il a vu la fin des communautés, il a vu les néo-ruraux arriver, il a vu les retraités arriver dans la vallée. Et tout ça, ça donne toute la richesse du récit.
Ça a demandé combien de temps de rencontre avec Norbert ?
Alors, entre 15 et 20 heures, je ne me souviens plus exactement. Ça, c'est de l'entretien, de l'interview. Ça, c'était tout le corpus du livre, c'est-à-dire les événements de la vie de Norbert Jouveau. Après, il faut en faire une histoire. Avec les contraintes du récit de vie, de l'histoire de vie, c'est qu'il faut garder la manière de s'exprimer de la personne, faire comme si elle était en train de parler, de raconter. Et en même temps, on ne peut pas prendre l'oral et faire du copier-coller, faire de l'écrit avec. Ça ne marche pas. Il faut réécrire avec la nécessité que la personne se lisant dise « j'ai dit ça ». Voilà. Ça, c'est quand c'est réussi. Qu'elle se reconnaît dans ce qui est écrit. Qu'elle ne se sente pas transformée, stylisée.
Et votre démarche, pour lui, quel était l'enjeu pour lui Il a tout de suite accepté de se dévoiler et qu'il y ait un livre écrit sur son histoire.
C'est un petit peu pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte de raconter sa vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est la vérité de Norbert Jouveau. Et lui, il voulait le faire, mais vraiment. Et il a vraiment joué le jeu. Et puis ensuite, il y a aussi les questions que je pose. Ça donne une... J'ai compris dès le début du livre, dès la première page, on voit quel est l'enjeu et quel est le système narratif qui va s'installer derrière. Et ensuite, dans les questions que je posais, j'avais le roman en tête, en fait. Donc lui, il a raconté au fil des questions que je lui posais. Et donc, à la fin, ça fait un roman. Donc, c'est lu par exemple, un touriste américain qui est passé dans la vallée, qui est passé à l'auberge, qui a acheté le livre, ensuite qui a mis un compte-rendu de lecture sur la page Facebook de l'édition, la Résurgel. Un Américain, la vallée du Jabron, ça, il ne l'a pas lu comme quelqu'un qui connaît. Il l'a lu comme un Américain qui découvre la vie en Provence. Et là, sa façon d'en parler, c'est complètement détaché de ce que quelqu'un qui vit dans la vallée pourrait dire.
Alors, Norbert donc est le premier à avoir un livre sur sa vie. Vous faites bien sûr la promotion pour les gens de la vallée du Jabron, mais bien au-delà aussi. Quelle va être la suite de cette histoire et de votre démarche?
Oui, alors déjà il y a des suites, ça donne lieu à des conférences. Là il va y en avoir à Digne. Je suis en train de chercher le lieu, ça va se décider la semaine prochaine. Donc, des conférences sur les contes. Et ma façon d'analyser les contes, c'est montrer la même chose que de ce qu'on peut faire dans un récit de vie. C'est-à-dire, quel est le fil conducteur, le fil d'Ariane caché derrière les événements d'une vie. Donc, quand je prends un conte, c'est derrière les événements qui arrivent au héros. En me servant de mes outils, c'est-à-dire l'anthropologie, la psychanalyse, la sociologie. Et avec ce que j'appelle les quatre intimes, c'est-à-dire le couple, le lien aux autres, la quête de soi et la famille. Ça, c'est dans les contes, c'est aussi dans les récits de vie. Donc je vais continuer à raconter la vie de néo-ruraux, à l'écrire, pour qu'ensuite on ait une collection qui fasse mosaïque et qui ne soit pas que destiné à la Provence et à la Haute-Provence, aux Alpes, que ça soit générique de la vie rurale et que ça donne à tous ceux qui veulent quitter la ville, il y en a beaucoup, pour s'installer en ruralité, et ben voilà, là vous avez l'expérience de notre berchiste. Le prochain, ce sera un autre métier. Et avec à chaque fois une vie, je prends des gens qui ont passé la soixantaine pour qu'ils aient une vie entière à raconter, qu'on voit ce à quoi ils se sont confrontés, comment ils ont interagi, comment ils se sont plus ou moins bien adaptés, avec plus ou moins de conflits. Voilà. et comment ils les ont résolus. Voilà, ce sera la collection qui va s'appeler Terre de récits, en fait. Terre au pluriel. Lure, Ventoux, Terre de récits. Mais ce sera... ça donnera chaque fois une pièce du puzzle. Et le puzzle, il sera jamais abouti. On n'aura jamais toute l'entièreté. C'est pas possible.
Après, il faut quelqu'un qui vous succède pour continuer les récits de vie. Donc, ça va se porter sur tout le département. C'est trop grand. Comment vous allez choisir les prochaines victimes, prochains héros plutôt, plutôt que victimes?
Alors, les prochains héros, le prochain, il est déjà choisi.
Oui.
Et puis ensuite, bon, c'est un livre par an, hein, donc c'est pas un livre par semaine. Ça a le temps. Ben déjà, peut-être parmi les lecteurs, peut-être parmi les gens que je rencontre, peut-être parmi les gens qui sont déjà en ligne et déjà enregistrés. Là, je suis en train d'enregistrer des personnes au-delà de la vallée du Jabron, côté Drôme, côté Fort-Calquier, côté Digne, voilà. Là où me portent mes pas, en fait. Je suis là depuis 2 ans, je découvre, et je découvre des paysages, je découvre aussi des personnes, et puis il faut qu'ils soient des néo-ruraux.
Et alors l'histoire de conte, ça c'est intéressant aussi, mais c'est encore autre chose, puisque là vous en avez fait un roman. Ça veut dire que quand on romance, on rajoute des choses personnelles, des analyses. Qu'est-ce qui fait que ça se transforme en roman?
Alors quand je dis que ça se transforme en roman, et je ne mets rien de personnel. Il n'y a que la vie de Norbert Jouveau dans sa manière de voir les choses. Et c'est pour ça que ce métier est un métier. C'est que je ne prends pas parti et je ne pousse pas la personne dans tel ou tel sens. Il faut que le livre rende compte d'une personne, de sa vie et de sa manière de l'avoir appréhendée. Quand je dis que c'est un roman, ça veut dire qu'il y a une histoire... qui j'espère est passionnante à lire. En tout cas, c'est ce que les lecteurs m'ont dit. Quand on commence à lire, on ne peut plus s'arrêter, on veut toujours savoir la suite, tourner les pages. Voilà. C'est dans ce sens-là que c'est un roman. Mais ce n'est pas une fiction. La seule fiction qu'il peut éventuellement y avoir, c'est les projections de Norbert Jouveau sur ce qu'il a vécu, c'est-à-dire sa propre interprétation à lui, personnelle, mais pas la mienne. La mienne n'est nulle part. Moi, mon travail, c'est d'avoir transformé de l'oral en écrit et en avoir fait une histoire.
Est-ce que, par rapport au développement de l'histoire, vous l'avez informé de chaque page écrite? Enfin, il a eu le droit de regard sur le travail réalisé?
Non.
Non.
Non, parce que autrement, enfin, je vais vous dire comment ça s'est passé. J'ai écrit le premier chapitre, l'enfance, je lui ai fait lire. Je lui ai demandé si on continuait ou pas. Il m'a dit oui. Et à la fin, une fois que j'ai tout écrit, je lui ai montré le résultat final. Il l'a lu. Je lui ai demandé s'il y avait des choses à changer. Il m'a dit rien du tout. Pourquoi je n'ai pas montré en cours de route? Parce que autrement, ça aurait influencé ce qu'il me disait. Et je ne voulais pas. Il ne fallait pas. Ça aurait pas été, pour le résultat final, ça n'aurait pas été une bonne chose. Ça, c'est ce que je dis, c'est avec Norbert Jouveau. Mais peut-être qu'avec une autre personne, il faudra procéder autrement. À chaque fois, il faut s'adapter à la personne qu'elle est, telle qu'on la ressent. Avant tout, un récit de vie, c'est aussi une relation entre deux personnes, entre le narrateur et celui qui enregistre et après qui écrit, l'auteur.
Donc tout ça, ça vous prend beaucoup de temps aussi. Comment vous faites? Vous êtes rémunéré pour ça par la personne que vous interviewez? C'est un accord que vous...
Alors dans mon métier, normalement c'est comme ça que ça se passe. Les autres personnes avec qui je travaille, soit on enregistre et puis ensuite c'est la personne qui écrit. Et ensuite, moi, je relis avec elle ou je l'aide. Ou alors, c'est moi qui écris et c'est la rémunération se fait comme ça. Avec Norbert, ça a été autre chose. Avec Norbert, non. J'ai pas eu de rémunération avec Norbert. Et la seule rémunération, c'est les droits d'auteur sur le livre.
D'accord. Ça peut vous suffire ou comment comment ça se négocie?
Alors il se trouve aussi que actuellement je suis à la retraite,
oui,
donc j'ai pas besoin de revenus particuliers autres que les droits d'auteur. Voilà. Et je suis aussi payé par les autres personnes avec qui je travaille en droits d'auteur. Donc c'est une espèce d'autres revenus que j'ai en plus de maintenant que je suis à la retraite. Avant, j'étais rémunéré entièrement avec cette activité.
Et par exemple, la maison d'édition, c'est vous qui avez fondé cette maison d'édition ?
Alors, c'est une coédition avec Esprit des Lieux, qui est un éditeur de la Drôme, donc qui est son entité propre. Une coédition avec Résurgène, qui est l'association qui s'occupe des récits de vie au départ dans la vallée du Gerbron.
D'accord. Résurgène, c'est une association. Ça existait déjà avant votre arrivée ?
Oui, ça existait avant mon arrivée, et maintenant, ça s'est spécialisé dans ces récits-là.
D'accord. Eh bien, c'est intéressant tout ça. Donc, Norbert était très satisfait du livre. Bah, et maintenant, donc, ce livre, on peut le trouver dans les librairies où vous les commandez. Comment ça se passe ?
Alors, on peut le commander sur le site resurgène.org. Mm-hmm. On peut le commander chez Esprit des Lieux. On peut le commander dans les librairies dans lesquelles il se trouve, donc à La Ruelle, à Digne, à Château-Arnoux, de Fil en Page, à la librairie presse de Sisteron. Et puis, comme il est en parution, là, eh ben, chez tous les libraires qui vont me contacter, qui veulent l'avoir dans leur fond. Mm-hmm. Voilà. Ils n'ont qu'à me contacter sur resurgène.org, Denis Carvin.
Vous en avez imprimé, fait, édité
oui.
Suffisamment.
Bon, sachant que ça va être un livre pour le moment régional, et qui est destiné à intéresser les gens dans la région qui veulent savoir comment ça se passe dans le Gerbron, et puis les touristes qui veulent savoir aussi quelle est la vie en Provence, parce que soit ils ont des livres historiques, mais des livres de personnes réelles, avec leur vécu en Provence, c'est pas, il n'y en a pas énormément, quoi. Et puis petit à petit, il s'étendra, parce qu'il intéresse aussi tous ceux qui pensent devenir néo-ruraux un jour. Ils ont là, en première main, l'expérience d'une vie d'une personne, puis ensuite de toute une collection, au fil des ans.
Bien, c'est passionnant.
J'espère.
Donc, une quête personnelle du sens, c'est ça votre parcours, et l'humain. Les contes, c'est aussi passionnant, et c'est vrai qu'il y a toute une philosophie de vie qui passe à travers les contes. Je sais pas en France si on est bien, si on a beaucoup de contes, mais en Afrique ou ailleurs, ça fait vraiment partie du quotidien des petits et des grands que de conter.
Oui, ce qui est bien dans les contes, c'est que dans le cadre d'une conférence qui dure entre 1h30 et 3h, c'est court et c'est dense, c'est intense un conte. C'est-à-dire qu'on peut, en lisant un conte qui va durer 5-10 minutes, on a de quoi analyser pendant 2-3 heures, par exemple, qu'est-ce que c'est le masculin, qu'est-ce que c'est le féminin, dans l'histoire, parce que je donne les bases de l'anthropologie. Voilà. Comment s'est constitué masculin, féminin, le couple, depuis combien de temps ça existe, qu'est-ce qu'il y avait avant. Et ça permet de voir, après, d'utiliser le conte pour voir ce qui est récent, ce qui est archaïque, très ancien, et qui continue à nous animer maintenant, à notre insu. Comment on s'est constitué être humain ? Qu'est-ce qui est culturel ? Qu'est-ce qui est beaucoup plus ancien que la culture actuelle qu'on a, qui nous fait vivre, et qui pourtant est encore là ? Et ça nous permet de comprendre plein de choses. Voilà. Qu'est-ce que c'est la famille ? On croit à savoir. Qu'est-ce que c'est le couple ? Tout le monde a une idée du couple. Mais de quand ça date ? Et qu'est-ce qu'il y avait avant ? Voilà, tout ça, c'est dans les contes, avec ce qui reste d'avant, quand le couple n'existait pas encore. Ça reste caché dans les contes, et caché dans la vie des gens.
Voilà. La vie du couple est cachée dans les contes ?
Ce qu'il y avait avant le couple, oui. Ouais. Et la vie du couple, bien sûr. Comment on sort de la fusion avec la mère pour créer un couple ? C'est dans tous les contes, ça. Mm-hmm. Dès qu'on part en quête de la princesse, on quitte quelque chose pour se mettre en quête de quelque chose qui n'est pas ce qu'on a quitté. Et on a la quête du sens, la quête du devenir, la quête de sa propre histoire. Pour faire histoire, il faut quitter des choses qui sont fusionnelles. Et pourtant qu'on continue à porter en soi, de manière cachée. Les contes le racontent. Et aller à la découverte d'un conte, c'est aller à la découverte de ce genre de choses. Et aller à la découverte de l'histoire de sa propre vie, c'est aller en quête de choses aussi profondes et essentielles que ça, que ce que je suis en train de dire. Et c'est ça que je cherche dans les histoires que je raconte et dans les conférences sur les contes. Que chacun puisse ressentir comment il a incarné de manière personnelle quelque chose de collectif, d'archaïque, de caché, d'inconscient. Et c'est chaque fois différent.
Alors, c'est Monsieur Salomé, Jacques Salomé, qui a fait un livre de les contes qu'ont à grandir, qu'ont à guérir, hein, voilà. Je crois.
Alors lui, avec un objectif thérapeutique. Moi, dans mon cas, il y a très peu d'objectifs thérapeutiques. Le livre sur Norbert n'est pas sa thérapie. Mm-hmm. C'est son histoire. Mm-hmm. Il n'empêche que dans l'histoire de la personne, ou dans un conte, on va trouver des choses qui nous font prendre conscience de choses essentielles qui vont nous aider à mieux comprendre comment fonctionne la vie, comment soi-même on a fonctionné, et comment on peut se libérer de choses inconscientes. Dans ce sens-là, ça peut être thérapeutique. Mais ce n'est pas mon but. Mmh. Alors que le but de Jacques Salomé, c'est celui-là. Compte à guérir.
Oui, bien sûr. Mmh. Vous n'écrivez pas de contes.
Ah non, je me sers de contes du monde entier, en fait.
Donc vous avez fait une sélection de contes et vous les analysez dans une conférence, c'est ça ?
Voilà. Il y a une série de 10 conférences, 2x5, parce qu'il y a un premier 5 contes qui forment une entité. Les deux premiers, c'est des contes... Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe quand on tient compte des leçons de la vie. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe quand on refuse les leçons de la vie. Ensuite, c'est avec la jeune fille sans main de Grimm, c'est qu'est-ce que c'est le féminin, comment ça s'est construit et comment on passe de la jeune fille à la femme. Ensuite, le quatrième, c'est qu'est-ce que c'est le masculin. Je me sers d'un conte kabyle qui s'appelle La mère ingrate. Et le cinquième, c'est le couple. Et je me sers d'une version de Barbe Bleue, pas celle qu'on connaît, une version plus archaïque, celle de Bruno de la Salle. Et ensuite, il y a une série de 5 autres où là, on va approfondir les choses. À partir de ce qui a été construit, de ce qu'on a conscientisé dans les 5 premiers, là, on va creuser plus. Et on va aller creuser selon les concepts jungiens. Voilà, la persona, l'ombre, l'animus anima et le soi. Et là, je me sers des deux compagnons de route, des souliers rouges de Andersen, de Jean de l'Ours, puis de Roi et le cadavre. C'est un conte hindou. Et petit à petit, bon, on va de plus en plus profond. C'est un cycle, en fait.
Donc, il est préférable d'assister à toutes les conférences.
C'est mieux.
Et peut-être que si on en a assisté à une, on a envie de suivre les autres. Pour l'instant, vous êtes donc en recherche de dates et de salles pour ces conférences.
Pour les conférences.
Parce que je me languis, moi, déjà.
Alors, à Digne, ça devrait commencer en janvier. Mm-hmm. Et j'aurai la réponse définitive la semaine prochaine. Et puis, normalement, ça aura lieu à Malocène, ou autour de Malocène, à Bédouin, enfin, dans cette région-là.
Où ça ?
C'est de l'autre côté du Ventoux.
D'accord.
C'est Malocène, Bédouin, Vaison-la-Romaine. Ça, c'est plutôt du côté de l'Esprit des Lieux. Et voilà. Donc, il va y avoir ces deux pôles. Mais s'il y a des endroits intéressés, ben, je suis preneur. Je ne vais pas en multiplier les lieux de conférence, mm-hmm. mais il y en aura 4 lieux maximum. Voilà. Mm-hmm. L'année dernière, elles ont toutes eu lieu au château de Montfroc.
D'accord.
Mmh. J'arrivais et le cycle entier a eu lieu, ça s'est très bien passé et c'est ça qui m'a donné envie de chercher d'autres lieux en fait.
Donc c'est des conférences qui durent une heure
Entre une heure, en plus, entre plutôt entre 2 heures et 3 heures, parce qu'à la suite des conférences, il y a un débat. Donc après, ça va dépendre aussi la longueur du débat avec les questions que les personnes posent. Parce que c'est des conférences qui font réagir, parce qu'on apprend des choses, enfin pour certains, hein, je ne parle pas pour les anthropologues ou les psychanalystes, mais pour tout le monde, on apprend des choses qui sont essentielles et qui peuvent être un peu remuantes, et en tout cas qui amènent à poser des questions. Voilà, donc oui, plutôt entre 2 et 3 heures.
Bien, c'est intéressant, mais ça va demander effectivement de la disponibilité de la part du public. Si vous faites ces cycles, il va falloir peut-être vous espérer espacer d'une semaine ou
deux.
Oui. Ou...
Ah oui, ce sera une...
Que les gens aient le temps aussi de, oui, d'intégrer.
C'est une par mois.
Une par mois, d'accord. Voilà.
Donc les cinq premières, ça devrait être entre janvier et mai. Mmh. Ensuite, on laisse passer juin, juillet, août. Mmh. Et les cinq autres à partir de septembre. Voilà, ça, ce serait bien.
Voilà, oui.
On peut arrêter quand on veut. Mmh. On peut venir aux conférences. C'est bien d'avoir assisté au Grimm, là, féminin, masculin et couple. Après, on peut assister à toutes les autres. Mmh. Parce que là, on a les concepts anthropologiques qui vont être suivis ensuite dans les autres conférences. Venir aux cinq dernières sans avoir assisté aux cinq premières, ça c'est plus... Il va manquer des choses, voilà. On va manquer de concepts.
Donc vous êtes allé à la recherche de ces comptes bien précis. Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres comptes ou vous continuez votre quête
Oui, là actuellement je suis en train de travailler sur Merlin.
Voilà. Merlin l'enchanteur?
Oui, le mythe.
Ouais.
Oui, j'ai oublié une des conférences, c'est Perceval. Mmh. C'est la construction de l'anima en fait avec Perceval. Mmh. Et donc Merlin ce sera celui d'après. Voilà, mais pour préparer chaque conférence, c'est quelque chose qui c'est intellectuel bien sûr, mais c'est pas le but. Le but c'est d'arriver à sélectionner des idées qui soient des véritables prises de conscience. Donc ça me demande plus d'un an de travail chaque fois pour vraiment sentir ce qui est vivant, ce que je peux passer et qui va toucher le public, les personnes qui écoutent. Pas simplement leur apprendre quelque chose. C'est le lien avec la psychanalyse. Mmh. C'est des choses profondes. Je travaille sur plusieurs plans en fait pour que ce soit vraiment touchant, que les personnes qui viennent aient vécu quelque chose, pas simplement appris quelque chose.
D'accord, on va ressentir forcément quelque chose.
En tout cas, c'est mon but. Des fois, on ne l'atteint pas, mais...
Les questions sont nombreuses en général?
Ça dépend. Pendant les premières conférences, oui. Et puis ensuite, les personnes s'habituent. Et il y en a, pas en moins, mais il y en a toujours quelques-unes. Mm-hmm. Ce n'est pas des grandes conférences avec des dizaines et des dizaines de personnes. Hein. Chaque fois, c'est intimiste. Il y a une trentaine de personnes. Mm-hmm. Ouais. Et c'est très bien parce que comme ça permet de parler sans micro déjà et de pouvoir répondre à des questions, même des discussions entre personnes qui assistent. Ça peut aussi devenir des débats. Moi j'ai ressenti ça, l'autre autre chose, et il peut y avoir des discussions entre les personnes.
Le public en général, c'est plutôt des femmes, non?
Plutôt... Et vraiment, ça touche tout le monde. Mmh. Par exemple, c'est des conférences que j'ai faites aussi à Liège, en Belgique, où j'ai habité 3 ans. C'est là que je les ai un peu rodées. Et donc, dans la vallée du Jabron, il y avait des personnes de tous bords, avec des personnes très cultivées, d'autres moins. Tout le monde est touché de la même façon, parce que c'est pas intellectuel. Il y a bien entendu des concepts intellectuels, mais qui sont très faciles à... Il suffit de les dire et voilà. Il n'y a pas d'effort. Il ne faut pas avoir une culture préalable. Et donc, il y avait par exemple le cantonnier de mon village qui venait aux conférences. Et puis, à côté de ça, d'autres personnes qui étaient des professeurs ou des psys, des artistes, des personnes différentes.
Je reprends votre CV riche, prix de l'Académie des sciences à Aix-en-Provence. Vous êtes un coach certifié.
Ouais, j'ai été ça. Alors, d'abord, prix d'Académie des sciences, c'est pour mes travaux en archéologie médiévale, quand j'avais une trentaine d'années. Là. C'est pour le premier livre que j'ai écrit qui était sur la reliure médiévale. Ensuite, quand j'ai travaillé en Italie, j'ai publié aussi des livres en italien, toujours dans le même domaine du livre médiéval. Ensuite, à mon retour d'Italie, j'étais co-auteur d'un CD-ROM qui a été Flèche Fnac et qui racontait... C'était une relecture du mythe d'Orphée et ça permettait de retracer, de faire travailler les enfants sur tout le programme de français de CM2, 6e, mais au travers d'une aventure. Et le CD-ROM a été Flèche Fnac et a été aussi reconnu, labellisé par le ministère de l'Éducation nationale.
C'est pas mal ça.
Oui, c'est bien. Donc j'ai créé la société qui a édité le CD-ROM. Et à la suite de ça, j'ai appris le métier de coach et je suis devenu coach que j'ai fait quelques années, jusqu'à me former à la psychanalyse, faire ma propre psychanalyse, me former, devenir psychanalyste quelques années. mon voyage et mon séjour en Belgique, c'était ça, et l'art-thérapie. C'est là que je me suis formé au récit de vie, en fait, avec Anne-Marie Trecker, qui est une des grandes du récit de vie. Trace de vie, enfin, elle est formatrice, sa formation est en Belgique, à Bruxelles. Et à mon retour en France, bah, c'est là que je me suis vraiment spécialisé dans ce métier du récit de vie.
Il y a de quoi faire, beaucoup à transmettre. Oui. Denis Carvin, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent depuis un moment, qui vous êtes. Denis Carvin, on rappelle que vous avez écrit « Dans ce l'ombre, Norbert Jouveau, un homme en vallée, récit de vie ». Donc c'est une collection, c'est un début de collection.
Ouais, c'est le
premier de la collection. La collection s'appellera
« Terre de récits ».
Terre de récits.
Allure, Ventoux, enfin, l'histoire d'un néo-ruraux.
Donc on peut vous le commander directement ou le trouver, qu'est-ce qui est le mieux ?
Ah, comme c'est le plus facile.
Voilà.
Donc, vous avez la librairie de Digne, à La Ruelle, à Sisteron, à Château-Arnoux, à Saint-Léger-du-Ventoux, et puis chez tous les libraires qui nous le demanderont.
Vous y trouvez bien sûr du plaisir, j'imagine, à ces récits.
Oui, du plaisir, de la connaissance. Quand j'écris un livre ou quand je suis la vie d'une personne, quand je l'accompagne dans l'écriture de son livre, il faut que ça m'intéresse. Autrement, ça serait mort, quoi. Il n'y aurait pas de vie dedans. Et j'avais vraiment envie, pour Norbert Jouveau, pour Dans ce l'ombre, d'abord le nom de l'auberge m'a fasciné, je voulais savoir d'où ça venait. Mm-hmm. Et puis, ça résume tellement sa vie que je ne pouvais pas rater ça. Et puis, c'est le lieu où il a vécu. Voilà. Et je pense que les autres tomes s'appelleront aussi du nom du lieu où a vécu la personne qui est venue s'installer en ruralité. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que c'est la vie d'un aubergiste de la vallée du Jabron, comment il est arrivé là, pourquoi il a choisi ou pas choisi, comment la vie l'a amené là, et qu'est-ce qui lui est arrivé. Ça m'intéressait, je voulais savoir en fait, comme une enquête. Mmh. Et ben maintenant je sais.
Et alors c'est pas dommage qu'il ait changé de nom alors que vous publiez Dans l'ombre?
C'est son choix. Voilà. Il a choisi l'auberge du Vallon des Amoureux. En fait, Dans ce l'ombre, c'est le nom de la montagne qui est derrière. Donc, c'est vraiment le nom du lieu. Mmh. Et le Vallon des Amoureux aussi. Mais c'est en provençal, c'est la Combe d'Amau. Et il l'a traduit en français. Bon, c'est son choix. Mmh. Mais peut-être que Combe d'Amau, ça aurait été. Et Dans ce l'ombre, il ne se reconnaissait plus là-dedans. Parce que c'était comme son passé. C'était D'accord. comme devenu son passé. On le voit bien dans le livre. Mm-hmm. Qu'à un moment donné, il a besoin d'une renaissance. Et voilà. Donc il l'a fait. Il l'a fait avec le livre. Le livre aussi, c'est un petit peu la fin d'une époque. Et pour lui, il y aura l'après-livre.
Alors ce livre, Dans ce l'ombre, coûte 15 euros. On oui. s'adresse à différents endroits pour le trouver. Vos projets, donc il y en a un autre qui s'écrit en ce moment, voilà. qui est en cours, qui sera publié. Vous avez une idée ?
Eh bien, ça, c'est la vie qui le dira. Il faut plusieurs mois. On n'a ouais. pas dit tout à l'heure, mais il faut entre 15 et 20 heures d'enregistrement. Mm-hmm. Mais il faut entre 6 et 8 mois d'écriture. Mm-hmm. Donc, j'espère et je pense qu'il sera prêt pour la rentrée prochaine de septembre. Comme celui-ci a été prêt en septembre, l'autre, je pense, sera prêt aussi.
Et puis, c'est vrai que les personnes qui ont des difficultés à écrire ou qui ont des vies passionnantes, mais qui n'arrivent pas justement à exprimer les choses, c'est vraiment bien que vous existiez pour oui. faire passer des vies, des histoires.
Voilà. Il y a des gens qui demandent simplement à être enregistrés. Mmh. Donc ça peut être fait chez eux. J'ai travaillé avec une personne au Brésil, par exemple. Donc elle, c'était pour écrire son livre. Donc il y a beaucoup de personnes qui simplement me font enregistrer avec elles leur vie et ensuite elles prennent le temps de mettre ça à l'écrit. Ou alors simplement enregistrer pour communiquer à leurs enfants, petits-enfants. Ils laissent. Il y en a même qui l'ont enregistré pour laisser après leur mort. Mmh. Il y a vraiment tous les projets possibles. Il y a aussi des gens qui travaillent uniquement pour bien comprendre une partie de leur vie. Par exemple, leur vie professionnelle, leur vie amoureuse, et que ça. Mmh. Parce que le raconter en étant au feu des questions, en enregistrant, et ensuite en pouvant se réécouter, ça fait un effet miroir, et ça permet de comprendre beaucoup de choses.
Je pense à beaucoup de personnes âgées qui ont eu des vies passionnantes, et, mais souvent c'est assez compliqué de remettre un peu d'ordre dans la chronologie de leur vie.
Voilà, et il ne faut pas attendre trop tard. J'ai essayé par exemple de faire ça avec mon papa, et ce n'est pas possible. Là maintenant, non, il n'a plus la capacité physique de parler, même pas... au bout de 5 minutes, il est fatigué, il ne peut plus. Voilà. Donc il ne faut pas trop attendre. Et dans les récits enregistrés là, qui sont sur le site, il y a des très vieilles personnes, des vieux paysans. Il y en a même un que j'ai enregistré l'année dernière et qui est mort depuis. Un des paysans de Montfroc. Donc oui, c'est important. Et d'ailleurs, les récits ont donné lieu à des projets communs. Par exemple, une exposition de vieux paysans avec... Laure Martin qui habite la vallée du Jabron, qui a fait les portraits, qui a peint les portraits. François Diot qui a pris en photo les lieux de vie du paysan. Et puis les récits qui peuvent être écoutés sur le site. Alors, on a fait une exposition à la chapelle de Montfroc, au moulin de la Viorne aux Omergues. Voilà, on l'a exposé deux fois.
Donc vous vivez vous-même dans la vallée du Jabron ?
Oui.
Et pour vous intégrer, c'est facile ?
Ben, c'est vrai que les récits, ça a à la fois facilité et puis rendu un petit peu... Oui, facilité et pas facilité. Parce que écrire un livre, vous savez, en ruralité, il y a tout un tissu de rumeurs sur une personne, avec des gens qui veulent penser ceci ou cela sur la personne. Et quand on sort l'histoire sous forme de livre, ça met un grand coup d'épée dans le nœud gordien des rumeurs. Et ça peut être bien accueilli ou moins bien. Voilà. Après, le temps passant, ceux qui n'étaient pas d'accord, ben, ils vont s'habituer. Et ceux qui aiment qu'on parle de la vallée, de ce qui s'y fait, des gens... voilà. Il y a aussi des gens qui se sont demandé, mais pourquoi Norbert Jouveau et pourquoi pas un autre ?
Eh oui.
Et ben parce que.
Et puis il y a des conflits politiques aussi entre. C'est pas évident quoi.
Voilà,
parce que chacun a ses opinions. Je crois qu'il avait voulu se présenter Norbert. Donc il y a ça aussi.
Voilà, il le raconte. Hein. D'ailleurs, c'est un des moments humoristiques du livre. Oui, voilà, il y a toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les projections qu'on peut mettre. Quelle est l'intention ? Est-ce qu'il y a une intention cachée, etc. Ben non, il n'y a pas d'intention cachée, il n'y a pas d'intention. Il y a juste, voilà, raconter la vie d'une personne avec sa subjectivité et en même temps avec, comment dire, avec la confiance qu'on avait en tous les deux, avec sa sincérité. Voilà. Comme quand on jette un caillou dans l'eau, ben, ça peut faire quelques vagues.
Quelques vagues, oui. Voilà.
Puis ensuite, ça se calme.
Et oui, on sait bien que la vie en collectivité ou dans les villages où tout se sait, quand quelqu'un parle, ça éclabousse aussi les autres. Et, et oui, chacun a sa vérité aussi. Donc, voilà. Ça peut. Comment ça a été perçu par les gens du village ? Est-ce qu'il y en a qui ont acheté le livre ? Vous savez un peu ce que ça a donné auprès de.
C'est le tout début. Hein.
Ouais.
Donc, comment dire ? Il y a eu tout.
Ouais. Il peut y avoir des jalousies, vous le disiez. Pourquoi lui ?
Pourquoi lui ? Alors, pourquoi lui ? Parce qu'il a eu une vie particulière et que pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait de l'ombre. Si on n'a qu'une histoire lumineuse, le bonheur n'a pas d'histoire. Je ne me rappelle plus qui disait ça, mais c'est vrai. Pour que ça fasse roman, il faut quelqu'un qui a eu une histoire un peu mouvementée. Et voilà. Donc c'est peut-être pas... On m'avait demandé, est-ce que c'est lui le plus digne ? Tout le monde est digne de raconter son histoire. Il n'y a pas un plus digne qu'un autre. Mais c'est celui qui m'a semblé au début, parmi tous ceux que j'ai... que j'avais dans possible, dans ceux qui avaient déjà été enregistrés à l'oral. C'est pas toute la vallée, j'arrive à une trentaine, c'est pas non plus. C'était celui qui me semblait avoir la vie la plus tumultueuse et la plus digne, peut-être la plus facile à mettre à transformer en histoire intéressante pour les lecteurs. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. C'est pas parce que. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas de. Comment dire ? C'est pas le plus digne, c'est pas le plus indigne non plus. C'est Norbert Jouveau, voilà, dans son histoire.
Mais je vous remercie. Est-ce qu'on a oublié des choses importantes? Pour l'instant, il n'y a pas de date donc, de conférence. C'est pour parler.
Non, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, vous le saurez déjà.
Voilà.
D'accord.
Et tous ceux qui veulent suivre les actualités des récits, de la collection, il faut aller s'inscrire soit sur la page Facebook. Mm-hmm. Donc, on a une page Résurgène, R-E-S-U-R-G-E-N, soit sur le site résurgène.org, vous vous inscrivez et je mets dans... Ou alors, sur Mistral.
Mm-hmm. Si on mettra le lien. Voilà.
Voilà.
Merci d'être venu jusqu'ici,
merci à
Digne.
Et puis,
c'est très intéressant. Enfin, ça donne envie d'en savoir plus sur la psychologie des contes et la suite des récits de vie. Et à commencer par se procurer le livre Danse l'ombre, votre premier d'une longue collection à venir qui s'appellera donc Terre de récits. Merci, Denis Carvin.
Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
Merci à tous.
Thank you.